Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir nous entretenir avec Denis Lacroix. Il est ingénieur agronome, il est spécialisé en aquaculture. Il va devenir expert en prospective, animateur et créateur de la veille et de la prospective à la direction scientifique de l'IFREMER. Il a participé à divers travaux portant sur les énergies renouvelables, l'environnement, la montée du niveau de la mer, etc. Bonjour Denis Lacroix.
Bonjour.
Alors en 2006, une nouvelle vie va commencer pour vous, puisque le président de l'IFREMER, qui est à l'époque Jean-Yves Perrault, va vous confier la création et l'animation d'une cellule de veille et de prospective. Alors, appuyé par un réseau d'experts français et européens, il va vous confier donc en mars 2007 le travail de prospective à l'horizon 2030 sur les EMR, c'est-à-dire les énergies marines renouvelables. Donc en vous appuyant sur une vingtaine de partenaires français qui représentent les principaux acteurs du secteur, vous vous embarquez dans ce projet. Il s'agit pour vous d'identifier les technologies, de préciser leurs conditions socio-économiques, les conditions socio-économiques de leur émergence, d'évaluer leur compétitivité, d'estimer leur impact respectif sur les énergies et sur l'environnement. Et c'est à cette époque, vous avez beaucoup d'espoir, mais en même temps, vous allez rencontrer aussi un certain nombre de petits problèmes. Donc, vous êtes d'abord chercheur et puis vous allez bifurquer vers la prospective. Alors, est-ce que c'est le résultat de vos recherches qui vous conduit à cela ? Et puis, qu'est-ce que c'est que la prospective ?
Alors, ce sont de vastes questions puisqu'elles engagent l'avenir. Je partirai de quelque chose de tout simple. Un chercheur, c'est quelqu'un qui se projette dans le temps nécessairement. Il fait des recherches pour trouver quelque chose et pour que ça soit utile à quelque chose. Or, former un bon chercheur, ça demande une dizaine d'années. L'intégrer dans une bonne équipe et avec tous les partenariats qui y sont liés, ça demande à nouveau plusieurs années. Donc, si vous voulez qu'il soit performant, efficace, eh bien, il faut être capable de deviner sur quel sujet il va travailler dans 15 ans. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quels vont être les sujets pointus auxquels nous devrons traiter dans une quinzaine d'années en matière de sciences marines ?
Alors, est-ce que ça veut dire que finalement un chercheur est toujours en retard ?
Alors, non, au contraire, il est toujours dans la dynamique de l'anticipation. Si on pose la question de savoir aux gens quels seront les problèmes majeurs concernant l'océan dans 15 ans ? Eh bien, vous allez avoir une pluralité de réponses. Pour certains, ça sera le problème du changement climatique. Pour d'autres, les courants, la pollution, les ressources alimentaires marines, l'industrialisation de la mer, l'érosion de la biodiversité, etc. Donc, et chacun aura d'une certaine manière raison. Mais vous ne pouvez pas tout faire sur tous les fronts, sur tous les océans et toutes les mers. Donc, parce que vous avez des ressources limitées. Donc, il faut être capable de voir quelles sont les disciplines qu'il faut développer, quels sont les outils dont vous aurez besoin. Est-ce qu'on va développer des navires océanographiques automatisés, des sortes de super drones marins et sous-marins ? Ou est-ce qu'il faut au contraire garder la présence de l'homme ? En quoi est-ce que les satellites peuvent se coordonner avec les outils qui sont en surface et au fond, etc. Donc vous voyez, il faut être capable toujours d'anticiper quels seront les problèmes qui vont se poser et comment vous allez y répondre avec un institut, mais le plus souvent en liaison avec d'autres instituts de recherche à l'échelle mondiale.
Mais vous en pensez quoi ? Vous croyez que l'homme garde un rôle au milieu de toute cette technologie ? Parce que c'est un peu un des sujets qui nous préoccupe ici. On travaille un peu là-dessus. Est-ce que finalement la science ou la technologie pourra répondre seule aux problèmes qu'on rencontre ?
Ah, certainement pas. Il est évident que les outils dont on dispose aujourd'hui, qui sont puissants, qui continue à être développée. Je pense notamment aux calculs, aux puissances de calcul qui sont développées. Et j'espère que bientôt, on sera capable d'utiliser l'outil du calcul quantique qui est, pour faire très simple, 1 million de fois plus petit, 1 million de fois plus rapide et surtout qui est capable d'intégrer des situations qui sont entre deux, alors que le calcul actuel est binaire. Ça donnera des capacités d'anticipation, de modélisation exceptionnelles. Donc ça, je vois tous ces outils technologiques comme des aides à la décision.
Mais on dit toujours que finalement un modèle, ça n'est que le résultat de ce qu'on a mis dedans, dans l'ordinateur, donc de ce qu'on savait.
Oui, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle le GIEC, par exemple, le Groupe international pour l'étude du climat, utilise de nombreux modèles différents pour éviter d'être esclave ou de dépendre, disons, d'une seule vision mathématique, quelle que soit la qualité du modèle mathématique utilisé. Pour ça aussi, on dispose de millions, je dirais, presque de milliards de données qu'on intègre dans ces modèles. Et on fait tourner tous ces modèles. Et on ne dit pas qu'il y en a un qui est supérieur aux autres. Ils doivent obéir à un certain nombre de critères et on voit les résultats.
C'est ça la prospective ?
Alors non, ça c'est de la modélisation à grande échelle. C'est ce dont se sert le GIEC pour être inattaquable. Et d'ailleurs, vous aurez observé que dans les résultats publiés par le GIEC, on a généralement des pourcentages, des probabilités qu'on aille vers telle élévation de la température moyenne à la surface de la Terre, parce que les modèles, en les faisant tourner des centaines, des milliers de fois, eh bien, ils donnent, en modifiant un petit peu les paramètres, un peu toujours les mêmes résultats. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, de la modélisation poussée. La prospective, c'est un petit peu différent dans la mesure où on fait intervenir la capacité intégratrice du cerveau humain. Et mieux encore, d'un ensemble de cerveaux humains. C'est-à-dire qu'on crée de l'intelligence collective.
Alors comment vous faites,
hein ? Alors, on réunit d'abord des gens qui ont envie de le faire, qui ont un peu d'imagination quand même, qui ont beaucoup de rigueur. Emilio Fontella, un prospectiviste italien, disait « Un prospectiviste, c'est un artiste doué de rigueur scientifique. »
C'est beau.
C'est beau. Et en même temps, c'est bien que ce soit un Italien qui l'ait formulé ainsi. Ça ressemble un peu à la démarche d'un Léonard Vinci, qui commence par rêver, par exemple, qu'on puisse s'élever dans l'air. Et puis après, il fait des dessins, comme ingénieur qu'il était, pour imaginer une vis qui se visse dans l'air, alors qu'à l'époque, on pensait que c'était de l'éther, qu'il n'y avait pas de matière. Et lui, il a observé qu'en fait, le vent était capable d'arracher des tuiles ou de coucher des arbres. Donc, c'était une force, et que cette force, elle devait bien avoir un support. Si elle avait un support, ça avait une certaine densité. Et si elle avait de la densité, on pouvait donc s'appuyer dessus. Vous voyez, le raisonnement, il est extrêmement logique. C'est un raisonnement d'ingénieur. Et derrière, il invente des machines. Et donc, la plupart d'entre elles ont été des intuitions géniales de ce qui pourrait être fait. Hein, il a inventé de très nombreuses choses. Et je dirais qu'un prospectiviste, c'est un peu quelqu'un qui rêve à différentes formes d'avenir et ensuite filtre ses idées ou les idées collectives qui ont été générées par un groupe pour voir quelles sont celles qui sont les plus rationnelles, les plus logiques, les plus cohérentes.
Alors, on va essayer de basculer un peu, parce qu'on a pris Léonard de Vinci, bon, c'est quand même quelqu'un hors norme, donc on n'est pas tous des Léonard de Vinci.
En puissance,
même avec beaucoup de respect pour les prospectivistes. Alors, en fait, vous faites partie d'un groupe donc de gens qui applique cette méthode.
Voilà.
Et alors, est-ce quand même, à la fin, il y a une solution qui apparaît ou bien on reste toujours avec de multiples solutions ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on part d'abord d'un socle de connaissances. On fait de la biblio. J'ai tendance à dire qu'un prospectiviste, c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire et qui lit très vite. Parce qu'il faut absorber énormément de choses. Et donc, on ne part pas simplement sur une discussion libre sur un sujet complexe. On commence par se documenter, de savoir ce qu'a accumulé la science et des écrivains, des penseurs avant. Une fois qu'on a ce socle de connaissances, eh bien, on réfléchit au système qui est posé. Alors, vous ne raisonnez pas de la même manière selon que vous réfléchissez au potentiel des énergies marines renouvelables en France, en Europe, dans le monde, ou que vous travaillez sur l'évolution des écosystèmes sous contrainte d'érosion de la biodiversité, ou sur l'élévation du niveau de la mer et de ses conséquences. Vous comprenez bien que c'est des systèmes qui sont très différents. Donc, après la documentation, on s'occupe de la mise en système des variables qui vont faire bouger le système. On regarde ensuite quelles sont les hypothèses qu'on peut faire sur chaque variable. Et dans la combinaison des hypothèses, on crée des scénarios, c'est-à-dire des histoires, des projections sur l'avenir. Et à partir de ces scénarios, on regarde quels sont les plus probables et on émet des recommandations pour les décideurs afin qu'eux, ils n'aient pas à s'interroger sur la valeur de ces scénarios, mais qu'ils puissent s'en servir.
Alors, bien sûr, l'environnement va devenir une de vos préoccupations principales, puisque de plus en plus on fait de la prospective en environnement. Et bien sûr, le point culminant, vous allez l'atteindre vers 2017, quand on va avoir les rapports du GIEC qui vont justement nous être diffusés. À ce moment-là, vous devenez, vous, un vulgarisateur passionné du GIEC, hein, et donc vous avez, ça devient presque le centre de vos réflexion. Et donc, vous êtes prospectiviste de l'environnement au travers des synthèses du GIEC.
Alors, je pense que c'est aller un peu loin de dire ça sous cette forme. Le GIEC, c'est un des groupes les plus puissants de réflexion sur l'avenir. Et il s'occupe principalement d'environnement. Ça représente à peu près 6000 chercheurs et ils travaillent sur une centaine de modèles. C'est pour vous donner un petit peu l'ampleur. Donc, ils compilent des milliers et des milliers de publications et ils regardent comment est-ce que ça se traduit en termes de grands scénarios d'environnement. Mais ils sont très cantonnés à l'environnement. Dans le cas de la prospective en général, on peut travailler sur à peu près n'importe quel sujet, ce qui est évidemment très intéressant. Alors, il y a beaucoup de méthodes disponibles, hein, la plus connue étant la méthode des scénarios. On construit des histoires, je dirais presque comme un scénariste construirait une histoire. C'est comme si on lui donnait des personnages, hein, et on lui dit, ben voilà, on aimerait que vous fassiez un western. Alors, avec les personnages donnés, il fait un western. Après, on lui dit, ben voilà, on voudrait un film d'un polar, donc il fait un polar. Et on voudrait une histoire d'amour, et ainsi de suite. Mais toujours avec les mêmes personnages. Donc, ça, c'est les variables du système. Et en combinant les relations entre ces variables, on peut raconter plusieurs histoires. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse. Et les travaux qu'on mène s'appuient sur l'énorme travail du GIEC pour notamment avoir un cadrage sur les scénarios d'environnement. Mais c'est rarement, c'est pas la seule des variables. Prenez par exemple les sociétés. Aujourd'hui, on sait que grosso modo, dans les trois grandes variables qui gouvernent l'évolution des scénarios, c'est dans l'ordre la gouvernance, en deuxième l'économie, en troisième les sociétés. Donc, vous pouvez faire varier beaucoup de choses, beaucoup de critères en matière de gouvernance.
Alors, donnez un exemple.
Eh bien, selon que vous avez un régime politique plus
voilà,
ou moins
dirigiste.
Voilà,
déjà la gouvernance, c'est déjà voilà. Donc le régime politique, voilà. Enfin le régime qui nous dirige.
Voilà, alors pas forcément. La gouvernance, ça va aujourd'hui jusqu'aux associations. La gouvernance, c'est tout ce qui permet de donner un cap et de suivre un objectif. Évidemment, on pense tout de suite à la gouvernance, mais en fait, à la gouvernance, je dirais, politique de son pays. Mais en réalité, elle-même, elle est enchâssée dans un système plus global, notamment en Europe, puisque l'Union européenne a son mot à dire dans bien des choses, et même à l'échelle mondiale. Quand on décide des lois sur la gouvernance de la haute mer, c'est pas la France qui a décidé, hein. C'est l'ensemble des pays. Donc, on
c'est bien
descendre.
De le rappeler, parce que
voilà,
beaucoup l'oublient parfois.
Exactement. Donc, la gouvernance est en fait une cascade de subsidiarité. Si on veut faire très simple, c'est les Nations Unies, il n'y a rien au-dessus. Hein. Ensuite, c'est les grands ensembles géographiques, l'ASEAN, l'Union Européenne, le Mercosur, l'ALENA, etc. Ensuite, on descend au niveau des pays souverains, 190 pays souverains, qui ont chacun leur politique. Ensuite, on descend parfois au niveau des provinces puissantes, les États américains, les Länder allemands, les provinces espagnoles, italiennes, etc. Ensuite, on descend au niveau
Nos régions.
De nos régions, exactement. Puis des cantons, des intercommunalités, de la commune. Et à l'intérieur de la commune, il y a des groupes de pression. Il y a des lobbies de toutes sortes ou des associations qui chacune ont des objectifs. Et la gouvernance arrive finalement à l'individu. Et là, on tombe sur l'atome, je dirais, de base de la décision, mais qui peut engager la vie de la cité. Donc, au sens strict, une personne qui a une bonne idée pour l'avenir, eh bien, elle fait de la politique, elle sert la vie de la cité.
Donc, il y a d'abord cette gouvernance. Ensuite, donc, vous avez dit, il y a la société. Donc, on vient de voir qu'elle pouvait être influée par différentes choses. Et puis, le troisième critère ?
Ben, il y a l'économie.
L'économie, voilà. Bien sûr.
Donc, ce tripode gouverne finalement à 80% tout ce qu'on peut décider. Et l'économie, bon, je n'ai pas besoin de développer. Il y a beaucoup de formes d'économie, d'abord. Et puis, en plus, ce sont des forces en présence qui sont considérables. Et qui d'ailleurs pèse sur les ressources de la planète. Et on dit souvent que quelqu'un qui peut croire en une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste.
Mais vous savez aussi des choses qui sont un peu à cheval sur les deux. Je pense par exemple à la justice sociale. On est entre l'économie et la société.
Oui, alors effectivement, quand on traite de justice, de toute manière, il y a à la fois la gouvernance. Quelle valeur donne-t-on à la justice au sens large du terme? On pourrait dire un terme plus large que ça, c'est l'équitabilité. Comment être équitable dans la répartition des richesses? Et des richesses naturelles qu'on partage, la qualité de l'eau et la qualité de l'air, par exemple, c'est une richesse qu'on partage et qui n'a souvent pas de prix. Alors, est-ce qu'il faut mettre un prix pour en tenir compte? Il y a également la répartition des richesses entre les individus, entre les sociétés, etc. Donc c'est un concept très difficile à maîtriser, à normer, je dirais, même s'il y a des grands principes comme la Déclaration des droits de l'homme, etc.
Alors, c'est déjà difficile à normer aujourd'hui, puisque une fois qu'on a intégré tout ça, c'est déjà bien difficile, on vient de le voir. Mais alors, en plus, vous le faites pour demain.
Voilà, vous avez très bien résumé l'enjeu extrêmement ambitieux de la prospective. Alors pour ça, je dirais que d'abord, on a un peu d'entraînement et de culture dans ce domaine, puisque ça fait des décennies, on peut même dire presque des siècles, que l'on fait de la prospective. On peut donc regarder ce qui a été bien vu, ou mal vu, ou pas vu du tout. Et donc, quelles sont les erreurs un peu systémiques que l'on fait quand on se projette sur l'avenir ? Quand on regarde les projections sur l'avenir d'il y a 50 ans, beaucoup d'entre elles imaginaient des voitures volantes dans les villes. Bon, on ne les a pas vues. Alors, pour quelle raison on a fait cette erreur? Donc, c'est toujours intéressant de voir pourquoi, dans les projections...
À Dubaï non plus, il n'y en a pas.
Des voitures volantes, peut-être il y a des taxis volants ou des drones volants. Mais ça reste quand même extrêmement marginal. Alors, quand vous regardez les fictions d'il y a une trentaine d'années, on avait des taxis qui circulaient comme des petits avions entre les immeubles. Bon, donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Il y a des intuitions qui sont très justes, et puis il y a aussi des grosses erreurs. L'erreur venant souvent du fait qu'on place le progrès des technologies, on le place mal dans le temps. C'est-à-dire des technologies très complexes à maîtriser, on les place beaucoup trop tôt, et puis d'autres qui paraissent mineures vont bouleverser l'économie. Je donne un exemple, Internet et la puissance des liens des réseaux sociaux a en général très peu été noté dans les prospectives avant l'an 2000, alors que ça existait déjà. Et donc, vous voyez, il faut être assez attentif à ce qu'on appelle, nous, les prospectivistes, des signaux faibles.
Et puis, encore une fois, on est là sur la technologie, c'est-à-dire votre phare, hein, votre vision est un peu dirigée par les technologies.
Oui, parce que les technologies, c'est quand même des outils pour découvrir le monde. Je vous donne deux exemples. Le microscope, c'est quoi? C'est un assemblage de petites lentilles. On en fabriquait pour faire des lunettes. Et puis, au moment où on a réussi à les disposer de manière à voir l'infiniment petit, on a ouvert un monde absolument gigantesque. À l'opposé, la même combinaison de petites lentilles a permis de faire des télescopes. Et donc, nous ouvrir sur l'univers et découvrir dans quel immense ensemble nous étions. Et nous étions donc minuscules. Donc, vous voyez, deux petits objets... Le microscope et le télescope, fabriqués avec du métal et un peu de verre, ont permis de bouleverser notre vision de l'univers. Au point de départ, c'était que des spéculations dites philosophiques. La première fois qu'est mentionné le mot d'atome, atomos, insécable, c'est Démocrite, 500 ans avant Jésus-Christ, chez les Grecs. Donc, le concept est inventé, mais pour le démontrer, il faudra attendre 25 siècles.
Très bien. Alors, donc, vous maintenant, vous êtes parti essentiellement en tant que prospectiviste pour Ifremer sur les problèmes de la montée de l'océan. Donc, on a aujourd'hui un certain nombre de grands... on a justement à penser lointainement les problèmes d'environnement.
Oui, alors ça, c'est une notion très importante. Nous avons un rythme de vie, disons, grosso modo, d'une centaine d'années, alors que nous sommes intégrés dans un ensemble qui, lui, a 4,5 milliards d'années. L'évolution des systèmes se fait à une certaine vitesse et il faut nous intégrer dans ce rythme-là. Si on va plus vite que lui, d'une certaine manière, on risque de le détruire. Et c'est ce qui se passe actuellement. La vitesse à laquelle l'homme intervient sur des grands cycles naturels, eh bien, n'est pas compatible avec les capacités de régénération. Je vous donne un exemple. On consomme du charbon. Le charbon, c'est des forêts pétrifiées sur l'ère du carbonifère. Donc, vous voyez, il y a très très longtemps, il y a plusieurs centaines de millions d'années. Donc, on consomme très rapidement de l'énergie emmagasinée pendant des millions d'années. Évidemment, ce n'est pas un rythme naturel normal. Pourquoi ? Parce que la nature ne peut pas absorber du CO2 à la vitesse à laquelle on le consomme. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'anthropocène, c'est qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'homme, par ses activités, eh bien, il va marquer une ère qui va être liée à sa propre activité.
Mais il n'empêche aussi que les mêmes hommes, si on pouvait prendre dans le même village, vont refuser d'accepter ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que je rencontre aujourd'hui des gens qui me disent « Mais finalement, la Terre a toujours changé de climat, l'homme a toujours su s'adapter, etc. » Et cette notion du temps n'est pas forcément prise en compte.
Alors, c'est vrai que la Terre a connu des variations importantes. Bon, il y a 18 000 ans, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Donc, pourquoi ? Parce que les glaciers, avaient pompé l'eau. Mais à la fin de la glaciation, les glaciers ont rendu cette eau. Et donc, aujourd'hui, on est à un niveau relativement stabilisé. Mais avec les effets du réchauffement climatique, la mer va se mettre à monter. Les glaciers vont continuer à fondre, alors que normalement, ça aurait dû se stabiliser. Et donc, on va avoir affaire à un phénomène qui est d'origine humaine. Et donc, il va falloir traiter dans des délais suffisamment courts pour que ça n'engendre pas trop de catastrophes.
Alors, justement, est-ce que vous êtes aussi enseignant ? Vous n'êtes pas seulement chercheur prospectiviste, mais vous êtes aussi enseignant et vous complétez en même temps votre formation. Vous venez de passer un doctorat en économie. Alors, ça pourrait donner une impression de dispersion, la recherche, l'enseignement, puis ensuite la formation continue. Et en fait, on se trouve dans une espèce de... Une volonté systémiste, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes plus le chercheur qui cherchait avec votre microscope sur telle chose, mais vous êtes dans un ensemble à la fois de pédagogie, de formation personnelle. Donc, est-ce que c'est ça un prospectiviste, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu partout à la fois ?
Alors, je ne sais pas si je prendrais cette approche-là. Je dirais que, bon, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que je suis en fin de ma carrière scientifique et j'ai toujours beaucoup aimé l'enseignement. Et un des intérêts, c'est de transmettre aussi. Quand on a appris des choses pendant des décennies, qu'on a eu la chance de voyager, de travailler pour une agence des Nations Unies comme la FAO pendant 3 ans, qu'on a pu rencontrer beaucoup d'autres responsables et dirigeants dans le domaine de la recherche et du développement et des politiques de recherche associées, eh bien, on a une envie, c'est de transmettre ça. Donc, j'ai tenu à consacrer une partie de mon temps à d'abord préparer des enseignements qui soient adaptés au monde actuel, et ces enseignements ne cessent d'évoluer, puisque quand j'ai démarré il y a 25 ans, c'était pas tout à fait le même monde, premièrement, et deuxièmement, parce que pour vraiment préparer l'avenir, il faut que ça soit une nouvelle génération s'en empare. Hein, comme disait joliment Pasteur, le hasard ne profite qu'aux esprits préparés.
Mais est-ce que vous vous rendez compte que désormais vous parlez politique ?
Oui, depuis le début.
Peut-être plus maintenant encore.
Alors peut-être plus maintenant parce que je suis souvent sollicité par des instances de réflexion ou de gouvernance dans différentes structures.
Les politiques sont paumées ?
Non, les politiques sont en recherche de pas de certitude, mais de faits prouvés sur lesquels ils pourraient s'appuyer pour prendre des décisions pertinentes et raisonnables sur le moyen
long terme. Mais est-ce qu'ils les prennent ?
Alors après, ça dépend, je dirais, des contraintes qu'ils ont. S'ils ont des contraintes très fortes à courte échelle, ils s'intéressent au domaine, mais souvent ils se déclarent un peu impuissants par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Donc, il faut essayer de les conseiller utilement en leur donnant des outils pour leur propre réflexion. Je donne un seul exemple. Je participe chaque année aux travaux de l'Association nationale des élus du littoral. Il y a à peu près 1000 communes littorales en France, dont la moitié sont en zone sédimentaire basse. Et donc, confrontés au problème de montée du niveau de la mer, ils demandent aux scientifiques quels sont les vrais chiffres, vers quoi est-ce qu'on va, qu'est-ce que vous pouvez conseiller de faire.
Alors, pour finir cette émission, parce qu'on pourrait discuter de l'ensemble de vos travaux pendant des heures, et on abordera à l'occasion d'une autre émission le problème de la montée des eaux et la manière dont justement les produits intérieurs bruts de chaque pays permettent d'avoir des visions qui sont forcément bien différentes les unes des autres entre, par exemple, les Pays-Bas et le Vietnam. Mais j'aimerais que nous finissions cette émission sur les imaginaires de la mer. Alors, du passé finalement au futur avec un S. Hein. Vous avez donc dans la revue Futurible qui est consacrée à la prospective sur les océans, avec Kalaora, vous finissez sur un superbe pas de deux. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de votre imaginaire et puis on va se quitter sur cette chose?
C'est vrai que j'ai pu écrire, rédiger un bel interview à la suite de la rencontre de Bernard Kalaora, un sociologue, je dirais, très, très polyvalent et très ouvert sur beaucoup de choses. Ce que je pourrais dire, c'est que quand on dit l'océan ou la mer à quelqu'un, vous avez d'abord des images. Vous n'avez pas du tout des chiffres ou des surfaces ou des données scientifiques. Vous avez d'abord une impression. Notre relation à l'océan, à la mer en général, est une relation, je dirais, pratiquement charnelle, ou en tout cas par nos sens. On entend les cris des mouettes. Par la beauté, bien sûr. Et par beaucoup aussi de composantes autour de la mer. Notamment, c'est une source de sagesse, une source d'harmonie, des liens entre les hommes même. C'est un grand vecteur de voyage, d'énergie, naturellement, d'imaginaire au sens large, les mythes de l'île. Elle est toujours au trésor, ou de l'Éden, du paradis. Mais un paradis peut-il être autre chose que perdu?
Ah, je croyais que vous finissiez sur une note d'optimisme.
Alors, je pourrais même compléter avec quelque chose qui fait décoller encore plus pour moi, et une phrase que j'aime beaucoup, c'est la phrase de Rimbaud. Elle est retrouvée, quoi ? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil.
Merci, Daniel Lacroix.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.